Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute du programme du Studio Tamani, il est 18h à Karou, dans le cercle d'Amsongo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal dont voici les titres. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF ont démarré ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. Les autorités scolaires rassurent sur le bon déroulement des épreuves malgré le boycott des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Trois soldats maliens ont trouvé la mort dimanche dans une explosion de leur véhicule à Meneka. Pendant ce temps, un accord de paix serait sur le point d'être trouvé entre djihadistes et population de Dinangourou dans le cercle de Koro. Plus de 574 000 personnes sont en insécurité alimentaire aiguë dans la région de Mopti, alerte le système d'alerte précoce. 31% de la population de Mopti ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate, prévient le coordinateur régional. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilomaïga à la maison de Mamadou Ouattara. Démarrage ce matin de l'examen du diplôme d'études fondamentales DEF. Près de 230 000 candidats sont inscrits à travers le pays. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a procédé au lancement des épreuves au groupe scolaire Cheikh Ahmed Tidiane Diarra à Bamako. Les enseignants signataires du 15 octobre boycottent cet examen. Les autorités scolaires affirment que des dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des épreuves. Reportage de Khalifa Goïta.
Aujourd'hui, c'est sur vous que le pays compte. L'avenir du Mali, c'est vous. Il n'y a que le travail qui anoblit l'homme.
Ce message d'encouragement destiné aux candidats a été dit par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga ce matin à 8h. Et c'est à cet instant que le chef du gouvernement a ouvert la première enveloppe de l'épreuve de rédaction. Choguel a déclaré que le gouvernement veille au bon déroulement du DF.
On va ouvrir.
Oui.
Les hautes autorités de la transition ont estimé qu'il faut marquer la présence de l'État aux côtés des enfants, aux côtés des parents qui sont inquiets, pour leur donner confiance et que les résultats qu'en attendent les Maliens puissent être au rendez-vous.
Des faux sujets d'examen ont été publiés ces derniers jours. La ministre de l'Éducation nationale est revenue sur la question pour mettre en garde les auteurs. Sidibé Dedeou Ousmane.
Aux parents d'élèves et aux élèves d'être sereins. Les auteurs qui sont en train de diffuser ces fausses informations, d'arrêter, parce que à l'heure où je vous parle, des enquêtes sont en train d'être menées. Les auteurs qui ont véhiculé ces faux sujets vont répondre. C'est clair et c'est net. Qu'ils s'assument et le gouvernement va s'assumer aussi, parce qu'on ne peut pas laisser quelques individus semer le trouble et impacter le bon déroulement des examens.
Pour ce premier jour de l'examen du DF, des candidats disent être confiants.
Bon, on nous a donné trois sujets de rédaction. J'ai pris le troisième sujet, c'était sur l'insécurité sur le Mali. J'ai bien traité le sujet. Je suis vraiment optimiste pour réussir le DEF.
Le sujet était bien. Je me suis bien défendu. Je pense que je vais réussir.
Rappelons que l'examen du DEF va durer 3 jours.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Un forum régional sur l'esclavage par ascendance s'ouvre ce matin à Kay. Des représentants des autorités administratives et politiques, de la société civile et des associations de droits de l'homme et de lutte contre la pratique sont attendus à cette rencontre. Objectif, échanger sur la pratique de l'esclavage par ascendance afin d'aboutir à la signature d'un contrat social permettant la cohabitation entre toutes les communautés de la région. Ce colloque est organisé par le gouvernorat de Kay en partenariat avec MerciCorps à travers le projet LAFIA. Mamadou Koulibaly est président du conseil régional de la société civile de Kay et membre de la commission scientifique du forum. Il est au micro de notre correspondant à Kay, Mahamadou Samba Diallo.
Il y a eu la tenue du forum local au niveau du cercle de Kay, du cercle de Baflabé, du cercle de Kita, du cercle de Djema, du cercle de Nioro, du cercle de Yelimani. Du 3 au 10 août. La deuxième étape, c'est la phase régionale qui se tiendra du 16 au 18 à la Chambre de commerce et d'industrie de Kay. C'est un forum multi-acteurs. Nous avons certaines institutions de la République. Ensuite, certaines ambassades qui doivent participer. On a invité la diaspora de la région de Kay sur l'ensemble des 5 continents. Nous avons invité les chefs de village, les anti-esclavagistes. L'objectif général, c'est promouvoir et consolider la paix, la cohésion sociale et l'entente entre toutes les communautés de la région et de signer un contrat social.
L'insécurité n'affaiblit toujours pas au nord et au centre du pays. Les civils et les militaires sont fréquemment touchés par des attaques dans cette partie du pays. Toutefois, les habitants de ces villages initient de plus en plus des initiatives de dialogue avec dans le cercle de Koro pour rétablir la paix et la cohésion sociale. Les détails avec Aïssata Diarra.
Et des blessés, c'est le bilan de l'explosion de ce véhicule d'infamant sur un engin explosif improvisé à Minaka. Cet incident s'est produit hier entre la piste d'atterrissage et le camp de Minaka. Des sources sécuritaires indiquent que les blessés ont été d'abord pris en charge par la force Takuba avant d'être évacués à Gao. Les mêmes sources indiquent que les enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs de cet acte barbare. À Mopti, des membres de la société civile du village de Dinangourou dans le cercle de Kourou affirme qu'un accord de paix est sur le point d'être conclu entre les habitants du village et les émissaires des présumés groupes terroristes. Cependant, dans la région de Ségou, cercle de Nyono, les habitants du village de Songo, contactés sur place, affirment que le village est complètement sous blocus. Personne ne peut entrer ni sortir, regrette-t-il. Il manque des médicaments, des nourritures et même d'eau, ajoute-t-il. Toutefois, des informations venant des forces maliennes affirment que des opérations de sécurisation sont en cours dans cette zone pour y rétablir la quiétude et mettre les populations et leurs biens à l'abri de tout danger.
Le calme est revenu ce lundi matin à Kaolack au Sénégal après l'accident tragique qui a causé hier la mort de 4 personnes. Plusieurs pertes ont été enregistrées de part et d'autre suite aux incidents entre les populations sénégalaises et des transporteurs maliens. Les autorités de deux pays ont appelé leurs compatriotes à la retenue au sens de responsabilité. Du côté de Dakar, on rassure qu'une enquête est ouverte et les auteurs seront traduits devant la justice. Selon des sources locales, le trafic a repris ce matin après une suspension pour des mesures de sécurité. Plus de 574 000 personnes vivent en insécurité alimentaire aiguë dans la région de Mopti, indique le coordinateur régional du système d'alerte précoce. Toutefois, la société civile de la région estime que ce chiffre est largement sous-évolué. Ousmane Abarké Diallo explique que le péril est beaucoup plus grave et les signaux d'une complication sévère, la malnutrition, sont de plus en plus visibles dans différentes localités de la région. Alicissé.
En plus de ces cas graves, il y a plus de 919 000 personnes, soit 31% de la population de Mopti qui ont urgentement besoin d'une assistance alimentaire. Amadou Djiré, coordinateur du système d'alerte précoce, SAP.
74 136 personnes qui sont en insécurité alimentaire. Au-delà de ces populations-là, il y a jusqu'à 919 548 personnes qui sont en phase de sous-pression. Les dispositions sont en cours pour assister les 574 133 personnes.
Ce chiffre est totalement sous-évalué, a laissé entendre un membre de la société civile de la région. Selon lui, si des mesures urgentes ne sont pas mises en place, cette crise de malnutrition aiguë touchera toute la région. Ousmane Barké Diallo, membre de la société civile de Mopti.
Le péril est beaucoup plus grave parce que ça, c'est l'existant. Mais elle risque d'être beaucoup plus compliquée dans l'avenir. Il faut trouver une solution structurelle. Cette distribution de nourriture ne peut pas être éternelle. Le SAP n'a pas les moyens d'entretenir tout le monde toute l'année. Et l'hivernage qui vient là, si on ne cultive pas, il n'y aura pas de récolte. S'il n'y a pas de récolte, il y a toute l'année à venir, toute l'année 2022, on va vivre comment? Le SAP ne peut pas faire vivre les gens 12 mois sur 12.
Pour rappel, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avait lancé la distribution gratuite de 43 000 tonnes de riz, 1000 sorgho aux populations touchées par l'insécurité alimentaire dans cette zone le mois dernier.
Le déplacement du premier ministre de la région de Ségou a pris fin hier. Choguel Kokalamiga a rencontré pendant ses 3 jours de voyage les agriculteurs, mais aussi les forces vives de la région. Le rétablissement de la sécurité était la principale préoccupation des habitants de toutes les localités sionnées. Mariam Koulibaly pour plus de détails.
Djadjeba, président de la Chambre d'agriculture de Nyono, faisait partie de la mission. De Ségou à Diabali, en passant par Nyono, il confirme que les attentes des agriculteurs restent les mêmes.
Il faut qu'on se donne la main. Il faut aussi aider les acteurs pour la paix. Les membres de la commission de réconciliation sont là. Il faut qu'on les aide pour que la paix revienne et que tout le monde puisse vivre en paix.
La signature d'accords entre les djihadistes et les populations n'est plus la solution pour certains. Il faut alors une présence militaire à Nyono, mais aussi derrière le fleuve de Ségou. C'est l'avis de Sédou Diabaté, notable à Ségou.
Ici, on rencontrait les djihadistes. Ils ont même établi des accords entre eux. Les accords sont violés. Sinon, sans la présence de ces forces militaires-là, malgré les discours, malgré les bonnes volontés, la population n'aura pas confiance.
Malgré les tentatives de sécurisation, les populations vivent dans la peur. Selon Djadjeba, avant-hier, 28 familles auraient quitté le village de Tchentchembougou pour se réfugier à Nyono.
Basketball, l'équipe nationale féminine a décroché hier son 8e titre consécutif de l'Afro Basket U16. Les Aiglons se sont imposés face au pays organisateur, l'Égypte. En revanche, leurs frères ont été battus par ce même pays en finale. Au mondial des moins de 19 ans, l'équipe malienne des moins de 19 ans est tombée devant la Hongrie lors de la petite finale. Par ailleurs, en football, le Mali affrontera le Rwanda le 3 septembre prochain à Agadir, au Maroc, en éliminatoire du mondial Qatar 2022. Le résumé de l'actualité sportive du week-end avec Sekou Gadjigo.
C'est une histoire d'amour entre l'équipe nationale féminine du Mali et l'Afrobasket U16. 8 victoires en autant de participations. Les Aiglons ont remporté hier leur 8e sacre devant les Égyptiennes 68 à 65. Mais chez les garçons, les Égyptiens ont pris leur revanche sur les Maliens 65 à 62. Quelques heures plus tard, en Hongrie, en petite finale du mondial des moins de 19 ans, les Maliennes sont tombées devant les Hongroises 67 à 88. Le Mali termine ainsi à la 4e place de cette compétition, une première pour un pays africain. Par ailleurs, en football, la Fédération malienne de football a annoncé ce lundi que le match Mali-Rwanda se jouera à Agadir, au Maroc, le 3 septembre prochain. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Selon la FEMAFOOT, la délocalisation de cette rencontre s'explique par les travaux de rénovation du stade du 26 mars, actuellement en cours.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité en région nous conduit à Koutiala où plus de 100 pieds d'arbres ont été plantés à la mairie de la commune rurale de Fakolo dans le cercle de Koutiala. Ce reboisement a été organisé ce 13 août 2021 par le Conseil national de la jeunesse de la capitale de l'Or Blanc. Il a pour objectif de lutter contre les effets du changement climatique. L'événement s'inscrit aussi dans le cadre de la célébration de la journée de la jeunesse commémorée le 12 août 2021. À présent, nous recevons Mohamed Touré pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir, Monsieur Touré.
Bonsoir, Imran Akilumaïga.
De quoi il sera question ce soir?
Organisation des futures élections. Qu'est-ce qui est réellement fait à ce stade? Et nos invités sont Zoumana Ntidoumbia, représentant du parti RPM, Salia Kariba Traoré de la Coalition pour l'Observation Citoyenne des Élections au Mali, COSEM. Je rappelle que nous avons tenté de recevoir un représentant du ministère de l'Administration Territoriale, mais ces tentatives sont restées vaines.
Merci et bon débat, Mohamedou Touré. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilumaïga. Au 18 août 2021, voilà bientôt un an jour pour jour que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé à cause de la mauvaise gouvernance selon les auteurs du coup d'État. Quels sont les changements constatés en termes de bonne gouvernance une année après ce bouleversement? Des leaders de la société civile, des partis politiques et des analystes politiques se prononcent dans ce magazine, mais déjà ils conviennent tous qu'aucun changement majeur n'a été enregistré dans la gouvernance actuelle. Selon la plateforme de la société civile malienne, il n'y a pas eu assez de changements de la gouvernance un an après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Elle estime que les autorités actuelles n'ont pas encore réussi à faire face à la demande sociale, la sécurité et la stabilité du pays. Dr Adama Traoré, président de la plateforme de la société civile du Mali.
Il n'y a pas pour l'instant de grands changements dans la gestion des affaires publiques par les autorités actuelles. Parce que, moi je pense, dès les premières heures, confrontés à une demande sociale très élevé. À telle enseigne que finalement, la gestion des principaux objectifs assignés aux autorités ne va plus être réalisée, à savoir essentiellement la sécurité, la précarité dans laquelle vit la population, au niveau du citoyen lambda. Le comportement encore de chaque citoyen n'a pas changé au vis-à-vis de l'État.
Des propos soutenus par certains partis politiques. Pour les partis Yalama, les mots qui assaillaient le pays restent toujours les mêmes en termes de sécurité, d'économie et du respect des textes fondamentaux. Hamidou Dimbia, secrétaire politique du parti Yalama, estime que beaucoup d'efforts restent à fournir par les autorités de la transition.
Quand on va prendre le respect des textes, en prenant l'exemple sur la taille du gouvernement, où la charte disait clairement qu'il ne fallait pas dépasser 25 membres, nous sommes aujourd'hui à 28 membres. L'article 39 des anciens, qui est une loi aujourd'hui emblématique et qui faisait partie des points de revendication qui ont fait tomber IBK parce qu'il y avait eu des difficultés à appliquer cette loi aujourd'hui. Je pense qu'on est toujours dans le même problème et les enseignants sont toujours à la demande. Donc quand on va prendre globalement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire sur le plan de la gouvernance.
Pour l'universitaire Bakabigné Keïta, les Maliens ont quitté le désespoir installé par le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta pour une espérance dont l'issue reste incertaine. Toutefois, le politologue Keïta déplore un manque de cohésion sociale autour de la gouvernance actuelle.
Ce qui a changé, c'est que quand même les gens ont quitté le désespoir total dans lequel, en tout cas, le régime du BK nous a plongé. Et aujourd'hui, les gens sont dans une espérance sans avoir l'assurance que cette espérance sera comblée. Et ce qui a manqué, c'est la cohésion des Maliens. Les Maliens n'arrivent pas, en tout cas, à donner le temps qu'il faut à leurs gouvernants, notamment c'est pour la deuxième phase de la transition.
Cependant, tous sont unanimes qu'il reste beaucoup à faire, mais l'espoir est toujours permis avec les nouvelles autorités.